Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Karen Alkaïm et je suis ravie de vous accueillir, ravie surtout de recevoir Pascal Horry, notre nouveau académicien qui est le tout dernier à être rentré sous la coupole et nous allons exporter la coupole justement de l'Académie française pour l'amener à Brive en cette 40e édition de la Foire du Livre. Alors, comme il est écrivain et historien et désormais académicien, et tout cela rime, donc ça tombe très bien, nous allons remonter en quelques mots le fil de son histoire. Pascal Horry voit le jour en 1948 à Fougères. Passionné, il devient agrégé d'histoire et docteur d'État après avoir étudié notamment auprès de René Raymond. C'est possible de faire un petit peu plus fort, s'il vous plaît ? Merci. Après avoir eu un poste d'assistant à l'université de... Super, merci. L'université de Nanterre, il a créé, contribué à créer le département d'histoire à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, après avoir enseigné aussi dans de nombreuses écoles et universités françaises ou américaines. Il transmet son savoir à la Sorbonne ou dans la presse écrite et l'audiovisuel. Mais vous avez aussi pu découvrir ses nombreux ouvrages personnels ou collectif comme les collaborateurs 1940-1945, l'entre-deux-mets, histoire culturelle du... Excuse-moi, avec les spots, je ne vois pas très bien. L'histoire culturelle de la France, vous êtes là, l'Europe, Goscinny, la liberté d'en rire, jouir comme une sainte et autres voluptés, qu'est-ce qu'une nation, de la haine du juif, essai historique, et comme vous le voyez, ce sont des thèmes très très différents, un goût éclectique qu'on retrouve dans son dernier ouvrage, ce côté obscur du peuple, qui regroupe plusieurs de ses textes essentiels qui nous éclairent sur l'histoire. Et on va en parler, mais surtout aborder évidemment ce grand événement dans votre vie, à savoir que vous avez été élu à l'Académie française en 2021 et que vous êtes désormais depuis peu immortel, comme vous pouvez le voir. Alors, Pascal Horry, ce qui vous anime depuis toujours aussi, c'est évidemment l'écriture, puisque vous avez commencé très jeune, dès l'âge de 7 ans. C'était quel type d'écriture déjà dans l'enfance et pourquoi vous avez choisi de continuer vers cette voie aussi ?
D'abord, merci pour votre accueil, vous, madame, et puis au public, après tout. Il faut remercier le public d'être là, vous pourriez être ailleurs, hein, franchement. Bon. Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, 7 ans, c'est un âge que j'ai indiqué de temps à autre quand je faisais de l'autobiographie. C'est vrai que plus on avance en âge, d'ailleurs, plus on est sollicité. C'est très inquiétant de raconter sa vie. Bon. 7 ans, c'est surtout, pour moi, l'émergence d'une vocation de ce qui va bientôt s'appeler être historien. Quoi. C'est ça. Le rapport à l'écriture, moi, je l'ai eu sur un autre plan. C'est d'ailleurs important parce que ça concerne mon épée d'académicien. Je viens de découvrir il y a 2 jours un film absolument superbe qui vient d'être tourné sur la fabrication de mon épée. C'est à tomber à la renverse tellement c'est beau, sur les métiers qui sont sollicités, qui interviennent. Bon, ça c'est ce qu'on n'appellerait pas un scoop à l'Académie, puisque je l'ai visionné pour la première fois il y a 2 jours et il sera projeté un peu plus tard. Donc je raconte à cette occasion que mon père était journaliste de la catégorie des entre guillemets grands reporters, mais c'est une catégorie qui existe, hein, administrativement parlant, et que je lui dois la devise qui est gravée sur mon épée depuis quelques semaines, puisque sur les épées d'académiciens, on a une complète liberté. En général, on grave quelque chose d'important, une devise, et c'est une devise en latin qui dit « nulla dies sine linea », c'est-à-dire « pas une journée sans une ligne ». Mon père m'avait transmis cette phrase-là, mais tous les jours, je le voyais écrire. Donc, d'une certaine façon, je ne vais pas dire que ça commençait à 7 ans ou à 6 mois, peut-être. Non, mais c'est que je le voyais tout le temps écrire. Alors, ou bien ça vous donne une sainte horreur de l'écriture, il faut imaginer cette hypothèse. Dans mon cas, évidemment pas. Mais ce que j'explique d'ailleurs dans cet étonnant film, parce que je le dis souvent, j'avais une certaine admiration pour le métier de mon père, même pour son écriture de journaliste. C'était une écriture assez littéraire, c'était dans un grand quotidien régionale qui s'appelle Ouest France, fait partie des grands quotidiens régionaux comme La Montagne. Je signale au passage que j'étais chroniqueur à La Montagne. Bon, et c'est vrai, et je le dis dans le film, ce qui m'attristait, c'est que 3 jours après, les articles de mon père servaient à ramasser, non, plutôt à emballer les carottes. Moi, je disais les carottes, mais on peut dire salade. Bon, voilà. Alors, je me suis dit, non, je ne serai jamais journaliste. Les historiens, peut-être qu'en déchirant les feuilles de leurs livres, ça sert à emballer les carottes, mais ça met un peu plus de temps quand même. Ce n'est pas fameux pour emballer les carottes. Donc, voilà, j'avais l'exemple de mon père pour vous répondre, c'est ça. Ensuite, ça s'appelle histoire. Vous savez, dans un premier temps, quand on a 7, 8, 10 ans, l'histoire, on prend le côté western. Par exemple, le côté western, ça s'appelle l'archéologie. C'est quand même fascinant hein, d'imaginer, alors ça c'est le mythe, mais parfois c'est la réalité, un coup de pioche et vous ressuscitez des milliers de gens. Il y a des choses, dans l'histoire de l'archéologie, il y a des moments qui vous arrachent les larmes, tellement c'est fort. Bon. Donc je me suis approché de l'histoire par ce biais-là, et puis assez vite, je pense que je me suis rendu compte que les historiens ne travaillent pas sur le passé, parce que quand on est jeune, vous savez, on est plus conservateur que quand on est un peu... moins jeune. Au départ, je pense que c'était le passé, les anecdotes, les histoires un peu mystérieuses, etc. Puis peu à peu, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans l'histoire, comme sans doute la plupart de mes collègues, voire tous mes collègues, je salue à cette occasion l'un d'entre eux qui est Laurent Viard dans l'assistance, c'est qu'on s'intéresse en fait beaucoup moins au passé qu'au temps. Et ça devient fondamental, hein, parce que considérer que notre objet n'est pas le passé, mais le temps, ça fait basculer la perspective, et je pense que je suis assez content de penser qu'un historien, c'est une sorte d'ébéniste qui travaille le temps, comme les ébénistes travaillent le bois, quoi.
Vous avez évoqué la figure de votre père. Votre père a aussi un rapport à l'histoire, puisque pendant la guerre, il a rejoint les troupes américaines de Patton. Est-ce que c'est lui qui vous a aussi donné ce goût de l'histoire, étant donné qu'il l'a vécu ?
Alors ça, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est la fin de la phrase. Parce qu'il n'a jamais fait de cours en quoi que ce soit. En revanche, il y a un livre dans sa bibliothèque, il n'y avait pas beaucoup de livres, c'est une bibliothèque de journalistes, il n'y avait pas beaucoup de livres, qui m'a beaucoup marqué. Mais par ailleurs, c'est vrai que c'est moi qui le questionnais. Ce n'est pas quelqu'un qui passait son temps à raconter sa vie ou sa guerre. Mais au bout d'un certain temps, on dit « Mais papa, maman, racontez-moi comment ça se passait ». Mes parents ont occupé la Bavière en 1945. C'est d'ailleurs un très beau souvenir pour ma mère qui considère que dans une armée d'occupation, c'est quand même très, très agréable. C'était l'armée d'occupation américaine en Bavière. Oui, effectivement, mon père a été associé à cette histoire-là. Il me parlait du général Patton, qui était un personnage assez extraordinaire. Certains d'entre vous qui sont cinéphiles connaissent peut-être le fameux film sur le général Patton. Donc ça, c'était une belle expérience. Mais mon père nous l'a dit, sine linea. Ma mère a toujours regretté qu'il ne soit pas resté dans l'armée américaine. Évidemment, un officier de liaison, bon, qui ensuite basculerait, il était officier de liaison de l'armée française, qui basculerait entièrement de ce côté-là, bon, c'est pas forcément très désagréable. Mais non, lui, il voulait écrire, enquêter, écrire. Enquête en grec, ça se dit historia. Mm-hmm. Alors, donc les deux métiers sont quand même cousins.
Bien sûr. Alors, lorsqu'Éric Orsenna vous a reçu à l'Académie française le 20 octobre dernier, il a rappelé que vous avez grandi à Fougères, cette ville qui est, je cite dans son discours, « martyr de notre histoire, maintes et maintes fois rasée puis reconstruite ». Pourquoi c'est inspirant de grandir dans un lieu qui respire à ce point-là l'histoire ?
Alors, je suis né à Fougères, mais j'ai plutôt grandi à Rennes. Mais Rennes a autant de bonnes raisons d'inspirer un historien, de toutes les façons. Écoutez, tout est une question de regard, dans tous les domaines. Pour une pratique comme la nôtre, pratique scientifique ou noire dans la vie privée, suivant le type de regard que vous portez sur le même objet, cet objet a une toute autre signification. On peut dire que, oui, moi, je vais étancher ma soif, ou bien c'est une bouteille en plastique... C'est pas un chef-d'œuvre, quoique, après tout, dans le design. Bon. Oui, c'est une question de regard. C'est vraiment une question de regard. Donc, moi, c'est vrai que, et je ne suis pas le seul, et je ne sais pas si Laurent Viard est dans le même cas que moi, mais quand on devient historien, tout devient objet d'histoire autour de soi. On se promène dans un lieu. Enfin, moi, j'ai le type de réflexe qui peut paraître agaçant, mais j'essaye de comprendre à qui on rend hommage, par exemple, dans une voie publique. La rue Dupont ou la place Durand, tout de suite, je voudrais savoir qui sont Dupont et Durand. Mais ça a une signification, c'est scientifique, si on veut, mais c'est magique aussi. C'est-à-dire qu'on enchante le monde. Le monde est vraiment beaucoup plus enchanté, puisqu'on dit tellement qu'il est désenchanté, que si on se dit, mais je me promène par exemple dans une forêt de symboles, comme dirait Baudelaire, je me promène dans une ville, française ou étrangère d'ailleurs, ces lieux qui ont un nom, qui ont une histoire, ces statues qui commémorent, ça devient passionnant de comprendre pourquoi ils sont là plutôt qu'ailleurs. Pourquoi on a célébré un tel plutôt. Et on sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un objet de polémique. Donc, pour moi, ça a été pratiquement presque la fin de mon propre discours, puisque Eric Orsenna répondait au mien, où j'avais à rendre hommage, entre autres, à mon prédécesseur, un écrivain qui s'appelle François Weyerganz. Et à la fin, après avoir montré les limites, à mon avis, de François Weyerganz, je disais que ça avait été un enchanteur, et que c'est un des plus beaux métiers du monde, quand même. Hein.
Complètement, on va en parler évidemment parce que François Weyerganz, écrivain belge, était un sacré personnage. Alors Eric Orsenna a dit aussi qu'à travers vos recherches, vos essais, vos récits ou vos biographies, vous ne cessez d'interroger. Qu'est-ce que vous cherchez finalement à questionner, à interroger, Pascal Auré ?
Moi, j'ai l'impression que tout historien fait, même s'il ne le proclame pas, de l'histoire sociale. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, ce sont les sociétés. C'est-à-dire que l'individu, en dernière analyse, est souvent une clé, hein, mais il n'en reste pas moins que ce sont les interactions entre individus. Donc le public qui est là cet après-midi, bon, il est intéressant aussi par le fait que nous sommes tous des individus, et en même temps, vous êtes réunis pendant 45 minutes, pas plus, pour nous voir et écouter, d'ailleurs discuter, c'est peut-être un peu frustrant, je ne sais pas. Donc c'est intéressant de voir comment se constitue un groupe, une collectivité, comment parfois elle disparaît, comment elle se transforme. Elle disparaît parce que là, ce que j'ai biberonné très tôt, y compris avec les récits de mes parents sur les bombardements, vous parliez de Fougères, la région de Fougères a été extraordinairement bombardée, enfin bon, Mortain, le verrou de Mortain, passant Saint-Lô. Bon. Donc c'est un lieu qui avait été très marqué tardivement, mais dans cette région, on sait aussi ce que c'est d'être marqué en 44. Quoi. Et là, c'est venu du ciel. La mort est venue du ciel, sous la forme de bombardements, d'ailleurs anglo-américains, et qui ont absolument détruit intégralement certaines villes. Quand même. Vous savez qu'on a songé à ne pas reconstruire Saint-Lô, qui était le chef-lieu du département, dont il ne restait que des ruines. Et pendant un an à peu près, on a dit, donc, on va mettre des... Hein, c'était un peu comme pour Oradour, mais à la taille d'un chef-lieu de département, on aurait mis des barbelés, on n'aurait plus touché à rien. C'était un vrai enjeu. Est-ce qu'il faut faire ça ou au contraire considérer que la vie continue bon. Donc moi, j'ai été biberonné au tragique. Je pense que l'histoire est assez fondamentalement tragique. Mais ça n'engage que moi, bien entendu.
D'ailleurs, vous le rappelez que nos sociétés, elles vivent essentiellement dans le présent, mais elles regardent néanmoins en arrière. Et vous écrivez dans votre dernier ouvrage, qui est d'une grande richesse, comme toujours chez vous, on enseigne l'histoire avec un grand H, la grande histoire. Or, l'histoire n'enseigne rien. Est-ce pourquoi ? Et est-ce que c'est pour cela qu'on a l'impression qu'elle se répète sans cesse ?
Alors, quand j'ai pour la première fois écrit cette phrase, puisque c'était la reprise d'une phrase plus ancienne que j'avais déjà écrite dans d'autres circonstances, on enseigne l'histoire, mais l'histoire n'enseigne rien. Je sais bien que certains collègues peut-être présents dans cette salle, qui sont, comme je l'ai été, hein, bon, grosso modo toute ma vie aussi professeur d'histoire, prof d'histoire, sont un peu déstabilisés. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que on enseigne l'histoire, et c'est une nécessité pour moi. Ça permet d'ailleurs de savoir qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, qu'il y a une récurrence. Dans les débats actuels, vous prenez n'importe quel débat actuel, l'historien de service peut dire, bon, on peut peut-être se calmer, parce qu'après tout, la génération précédente, ou il y a un siècle, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, et en même temps, ça ressemblait, et on ne reste pas les mêmes, puisqu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On croit qu'on est les mêmes, mais le fleuve, lui, il a continué à couler. Ça, c'est une chose. Mais l'histoire n'enseigne rien. Moi, ce à quoi j'en ai, c'est l'idée qui était assez fréquemment répandue, par exemple dans l'Antiquité, bien sûr, classique, et même dans des périodes plus récentes, et même au XXe, voire au XXIe siècle, à savoir que si on explique bien à une société, vous là, une société, à quel point on est allé, par exemple, c'est une des hypothèses, c'est pas toujours le cas, vers une catastrophe, eh bien, cette société va comprendre et qu'elle ne va pas refaire les mêmes, entre guillemets, erreurs. C'est-à-dire qu'on a une démarche morale, voire moralisatrice. Et bien entendu, ça n'a aucun sens. L'exemple qui m'était venu à l'esprit la première fois que j'ai un peu réfléchi à ça, ça concernait le fait que, parmi les électeurs en France, mais ça vaut pour tous les pays du monde, qui ont un mouvement dit populiste, puisque dans mon livre, il est beaucoup question du populisme, même avant que ce ne fût à la mode. Dans tous les pays où il y a un mouvement populiste, des démocraties, hein, je ne parle pas de dictature, de démocratie, vous avez un nombre considérable d'électeurs qui font le choix de mouvements populistes, et à peu près chaque élection en ce moment nous le confirme, vous avez dans ce mouvement toujours une dimension xénophobe. Elle est plus ou moins forte, non, mais du nationalisme on peut glisser à la xénophobie sans parler même de pire. Et vous constatez que parmi ces électeurs, il y a des descendants première, deuxième génération d'immigrés, sauf que ce ne sont pas les mêmes. Hein ? Moi, je me rappelle, j'ai été très heureux de pouvoir lancer un projet collectif. Il y a eu 60 de mes collègues qui ont participé, le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France. J'étais même étonné que personne n'ait eu une idée avant. Bon. C'était dans la collection bouquin il y a déjà quelques années. Donc, quand j'ai présenté, justement, vous parliez des États-Unis à New York, à l'Université de New York, ce livre qui venait juste de sortir, j'ai terminé en disant, bon, bah, la France est une extraordinaire machine à intégrer. Quand même, c'est extraordinaire. Nous sommes un pays d'immigration, faiblement d'émigration. Nous sommes un pays d'immigration, comme les États-Unis, à la limite. Nous ne sommes pas du tout comme l'Allemagne, ou l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays, jusqu'à présent, parce que c'est en train de basculer, d'émigration. Bon. Et je disais, écoutez, il y a 8 jours, il y a eu une élection en France, une petite élection, cantonale partielle. Le candidat de ce qu'on appelait à l'époque le Front National, s'appelle Lopez, bien sûr. C'est-à-dire que vous êtes xénophobe pour certaines catégories, mais vous avez dit, ah, mais mon grand-père, c'est pas la même chose que... Donc, l'histoire n'enseigne rien, mais strictement rien, évidemment. Si on pensait qu'avec l'histoire, on va moraliser, surtout avec une histoire tragique, vous savez, par exemple, j'ai participé à la génération, les collaborateurs, la génération qui a ouvert les grands placards en disant, écoutez, c'est très bien, le général de Gaulle vient de mourir, hein, 70, il vient de quitter le pouvoir, 69, etc. Bon, est-ce que les Français étaient si résistants que ça, ou résistants à quoi ? Bon. Donc, on a été quelques-uns à aller regarder de l'autre côté, du côté des collaborateurs, collaborationnistes, etc. Et c'est vrai que c'est devenu prédominant. Je vous parle vraiment de c'est pas hier maintenant, hein. Je vous parle de 70, 11, 12, 13, 14, 15. Hein. Donc, ça fait un demi-siècle. Et ça a été tellement focalisé là-dessus que moi, je me suis retrouvé souvent en face de jeunes, puisqu'il y en a pas mal dans la salle, là, qui, au fond, étaient extrêmement troublés à l'idée que bon, bah, leurs parents, leurs grands-parents, les Français, les Nantes, avaient, grosso modo, été tous plus ou moins des salauds. Vous voyez, donc, c'est assez pervers. Donc, on peut enseigner en sens inverse. Hein. Ça consiste à dire, ah bon ? Ah ben, ah ben c'est ça. Et qu'est-ce que vous en concluez, d'ailleurs, hein ? C'est extrêmement ambigu, extrêmement ambigu. Donc, c'est par exemple très intéressant, si on veut continuer dans la moralisation, de parler des justes. Et ben, voilà. Moi, je me rappelle qu'un des livres les plus émouvants qui existe, c'est le dictionnaire des justes français. C'est-à-dire ceux qui ont sauvé, en particulier des juifs, mais pas que des juifs, pendant la guerre. Et quand vous regardez la notice de chacun et de chacune, c'est un tel était facteur, peut-être en Corrèze, un autre était instituteur. Bon, des gens souvent très simples et qui, à leur plus grand risque, ont sauvé des victimes. Donc c'est important de dire aux jeunes générations, il n'y a pas que, il y a aussi les justes. Mais donc cette idée que l'histoire enseignerait quelque chose, c'est très délicat. C'est très délicat.
Alors l'histoire, elle est aussi extrêmement présente quand on rentre dans l'Académie française. Pour ceux d'entre vous peut-être qui ont eu la chance d'y aller, c'est un lieu chargé d'histoire, qui respire l'histoire vraiment dans le moindre recoin, où on a l'impression que tous les fantômes de toutes ces personnalités étonnantes qui l'ont peuplé sont encore présentes. Pourquoi vous avez voulu faire partie de l'Académie française et qu'est-ce que vous avez ressenti sous la coupole le 22 octobre dernier ?
Oui, le 20 octobre. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire vouloir être de l'Académie française ? Je ne vais pas prétendre, justement, être un cas typique. J'ai l'impression que je suis un peu atypique, mais c'est ni bien ni mal, hein, d'être atypique. Je ne suis pas en train de me valoriser en disant « Ah, je ne suis pas comme mes confrères et mes consoeurs », puisqu'on s'appelle confrères et consoeurs. Il se trouve qu'il y a une... Bah, grosso modo, le modèle standard, c'est que l'Académie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle envoie des signaux. C'est pas le cas à 100%, mais c'est le cas majoritaire. Je l'ai vu fonctionner maintenant depuis un an et demi, que peu à peu j'entre, hein, puisque vous l'avez rappelé, j'ai été élu au mois de mars 21 et je viens d'être reçu sous la coupole le 20 octobre. Vous voyez que ça prend du temps, un peu allongé par la pandémie, mais enfin, ça prend généralement un an et demi, c'est vrai. Et ça s'explique, hein, parce qu'il y a des étapes à franchir. Il y a une demi-douzaine d'étapes. La réception sous la coupole, c'est la dernière. Mais il y a l'installation, il y a la remise de l'épée, ce qui est encore tout à fait autre chose. C'est très intéressant. J'ai évoqué l'épée tout à l'heure. La force du symbole. Je vais quand même donner l'exemple. Je n'ai pas oublié votre question, mais pour vous montrer l'importance des symboles dans les sociétés, en général. Vous pouvez dire, cette épée, là, c'est un peu ridicule, il veut couper la tête à quelqu'un, ou je ne sais pas quoi, ou c'est l'ancien régime. Je vous donne un exemple. Simone Veil, la Simone Veil ministre, pas la Simone Veil philosophe, a été ma consoeur, hein, puisque par-delà les âges, c'est ma consoeur, même si on n'a pas été ensemble à l'Académie française. Elle a été à l'Académie française, ce qu'on oublie souvent. Qu'est-ce qu'elle a fait graver sur son épée ? Le matricule qu'elle avait à Auschwitz. Voilà. Et il y a un autre exemple, d'ailleurs. Celui qui a créé mon épée, son père avait fait l'épée du professeur Lucien Israël, un grand cancérologue. Qu'est-ce qu'on voyait dessus, sur son épée, entre autres ? Un crabe, le cancer, transpercé par une topaze, et le matricule Auschwitz de son épouse. Donc, vous voyez, la symbolique, hein, c'est pas neutre. Donc, l'Académie française, en général, elle aime bien envoyer des messages du style « Ah, vous devriez peut-être penser à l'Académie ». Et c'est ce qui m'est arrivé. Et pour des raisons, alors, allons-y, on va être dans la... Non pas l'anecdote, parce que c'est tellement signifiant, mais je vais être obligé de dire « et je vais parler de ma famille, donc en espèce mon épouse ». Mon épouse est malvoyante. Il se trouve que, après qu'on lui ait dit aimablement, quand elle commençait ses études de médecine, qu'elle ne terminerait pas ses études de médecine parce qu'elle aurait une canne blanche avant, ce qui est très, très sympathique de la part de l'ophtalmologue qui lui disait ça. Heureusement, elle a croisé sur son chemin un grand patron d'ophtalmologie, ça se passe en province, qui lui a dit « Mais non, c'est compliqué, ça s'appelle le kératocone, ça suppose des greffes. » C'était il y a 45 ans. Elle a été greffée. Bon. Et puis, quand on s'est connus, elle est venue s'installer avec moi à Paris. Donc, elle a changé d'ophtalmologue de référence. Et son ophtalmologue de référence s'est appelé Yves Pouliquen. Yves Pouliquen est un très grand ophtalmologue, mais il se trouve qu'il a été élu à l'Académie française quelques années plus tard. Moi, je le connaissais indépendamment de l'Académie française. Et on a continué à parler de choses et d'autres. On ne parlait jamais de l'Académie française, mais je le voyais régulièrement. Et puis un jour, il m'a dit la fameuse phrase « Ah, mais vous devriez songer à l'Académie ». Et j'ai été quand même ému, et puis j'ai rien fait. Non, j'ai laissé passer peut-être 10 ans. Et il est mort au début de la pandémie. Pas de la pandémie d'ailleurs, mais enfin ça a été très brutal. D'ailleurs, l'Académie l'a beaucoup regretté parce que ce n'était pas le plus connu des académiciens, pas le plus flamboyant, mais très impliqué. Vous savez, dans un club, il y a ceux qui entrent dans le club parce que c'est un investissement pour eux, et puis ceux qui s'investissent. Donc, bon, Pouliquen, il s'était investi. Il est mort brutalement, et à l'annonce de sa mort, au-delà de la mort, je lui ai dit, Yves, vous avez été le premier qui aviez évoqué l'Académie. Là, maintenant, vous êtes mort, je me présente. Et donc, c'est bon. Peut-être que tout le monde ne se présente pas comme moi. Voilà. Et à ce moment-là, j'avais à l'Académie quelques amis qui m'ont dit, excellente idée, mais dans un deuxième temps. Et après, ben, vous connaissez peut-être le principe, puisqu'il y a un côté, pas forcément ancien régime, hein, parce que c'est la Révolution qui a reconstitué l'Académie, ce qu'on oublie souvent. C'est même la Convention. C'est pas n'importe quoi, c'est la Convention qui a recréé le système des académies, ce qu'on oublie quand on pense à Richelieu, etc. Oui, bien sûr, il fallait Richelieu d'abord, mais après, il fallait la Convention nationale, puis le Directoire, etc. Et à ce moment-là, des traditions se sont instaurées, dont celle de l'épée, etc., de l'habit, qui ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez la force du symbole en ce qui concerne l'épée, l'habit aussi, d'ailleurs. Et c'est vrai que, par exemple, on nous demande d'écrire à la main notre lettre de candidature. Donc, il y avait à ce moment-là 35 membres, on est toujours 40 depuis le début. On est la seule académie qui n'est pas bougée, on est la plus petite de toutes. Le principe étant, on ne va pas augmenter. L'Académie des sciences françaises a plus de 400 membres. Et ça a gonflé, on peut comprendre pourquoi d'ailleurs. C'est un autre modèle. Mais la française, toujours 40, comme au XVIIe siècle. Et on fait nos lettres de candidature à la main. Je vous prie de croire que c'est déconcertant aujourd'hui. Hein. Faire 35 lettres de candidature, d'ailleurs on peut du coup nuancer, on n'est pas obligé de faire du copier-coller, on les fait à la main. Et de même, comme dans l'ancien monde, si j'ose dire, du coup, les académiciens et académiciennes, qui sont des électeurs en quelque sorte, auxquels on s'adresse, ont le droit de vous dire bah, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Donc il y a un minimum de campagne électorale sous la forme des visites, hein, comme à l'époque de Marcel Proust. Là, on rend visite. Ce n'est pas une obligation, pas du tout une obligation. En plus, c'était en partie à l'époque de la pandémie, mais voilà. Donc je suis passé par ces... Et puis il y a l'élection. Et alors, sur ce plan-là, il faut quand même très intéressant, je l'ai dit dans... c'est très intéressant d'être intéressé, du coup. Je l'ai dit dans mon discours de réception. Tous les spécialistes de l'histoire du suffrage, qui est quand même quelque chose de fondamental, hein, quand on parle des midterms, etc., le suffrage secret, égalitaire. Hein. Suffrage, égalitaire et secret. Alors, la notion d'universel intervient après, mais bon. Ce suffrage-là, il a été testé bien avant l'époque moderne, dans deux endroits qui étaient les monastères, tous les monastères où l'élection du prieur après, avec la commande, ça a changé, pouvait avoir lieu par scrutin égalitaire et secret, et les académies dès le XVIIe siècle, mais ça paraît aller de soi, mais bien sûr que non, c'était complètement bizarre de voter à bulletin secret et que tous les électeurs soient sur le même plan. Ben, ça a été testé dans les académies. Donc, je me suis rendu compte, je termine sur ce point, qu'on peut faire la liste des membres illustres qui ne sont pas membres de l'Académie française. C'est un sport qui est bien connu, ça s'appelle le 41e fauteuil, puisqu'on est 40. Donc, vous n'avez pas élu. Bon. Alors, c'est très intéressant de voir pourquoi. Bon, il y a ceux qui ne se sont jamais présentés. Et en ce qui concerne la situation actuelle, d'ailleurs, l'Académie réfléchit pour comprendre ce que ça signifie, il y a une proportion non négligeable de gens illustres qui auraient dû être à l'Académie, que l'Académie a sondé, mais qui n'ont pas voulu. Je connais personnellement Régis Debray, personnellement Mona Ozouf, personnellement je connaissais Jean-Claude Carrière. Ils ont tous été sondés, mais ils n'ont pas voulu se présenter, pour diverses raisons. Pour diverses raisons. L'Académie, c'est des vieux, c'est des réactionnaires, tout ce que... Bon. Puis il y a cet habit ridicule. Vous savez qu'il y a une réponse que Lévi-Strauss avait donnée à ça. Lévi-Strauss était membre de l'Académie française, il était absolument traditionnaliste. Il a dit, je résume, pourquoi est-ce que je me moquerais des rites de ma société, moi qui ai passé ma vie à travailler sur les rites des autres sociétés? Ça, je trouve que c'est imparable comme réponse. Bon, ça, c'était la réponse de Lévi-Strauss. Eh bien, donc, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles certains amis ou certaines personnes que j'admirais ne se présentaient pas, c'est qu'il y avait quand même un risque, puisque c'est un vote à bulletin secret. L'Académie royale de Belgique, Amélie Nothomb, etc., elle va chercher ses membres. Alors là, il n'y a absolument aucun risque. Et récemment, il y a eu ce qu'on appelle une élection blanche. Il y avait Franz-Olivier Gisbert qui se présentait. Et il a été un peu surpris, mais il n'a pas été élu.
Hein ? Il est à Brive, d'ailleurs. Alors, vous parliez du fauteuil et vous occupez justement un fauteuil assez mythique, le numéro 32, qui est jugé maudit. Pourquoi est-ce qu'au contraire, vous le percevez plutôt comme éminemment romanesque, notre amant, à travers cet écrivain que vous évoquiez et qui est François Weyerkens?
Alors, je vais peut-être faire de la publicité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne dans cette salle qui suive mon conseil. Mais je vous signale que l'Académie française a une chaîne YouTube qui est bien faite. Et de toute façon, sur YouTube, indépendamment, vous savez, sur YouTube, ça part d'une chaîne et puis ça vagabonde. Vous avez la captation de ma réception d'il y a quelques semaines, là, du 20 octobre. Et vous avez les deux discours, parce que ça se ramène simplement à mon discours, qui dure à peu près une heure, c'est la tradition, et puis le discours en l'espèce de Rick Orsena qui répondait. Et là, je reviens là-dessus, effectivement, parce que je démonte l'idée de fauteuil maudit, qui est fondé sur parce que c'est un réflexe d'historien, puisqu'on le suppose maudit, mais ça vient d'où? Eh bien, ça a 11 ans, c'est pas vieux. C'est une légende urbaine qui vient d'un roman, et du coup, j'ai invité l'autrice Nathalie Reims, fille de maître Maurice Reims, le grand commissaire-priseur, sœur de la photographe Bettina Reims, je l'ai invitée sous la coupole, je l'avais jamais rencontrée, et maintenant on va se voir dans quelques jours, parce qu'évidemment, elle a été très émue, en fait, que je rappelle que ça venait d'un roman, parce que, tout simplement, je ne peux pas entrer dans le détail, elle en avait assez, elle qui était la fille de Maurice Reims, mon prédécesseur, il y a trois générations de fauteuils, si j'ose dire, elle en avait assez que, pour diverses raisons, il n'y a toujours pas eu d'éloge de son père. Bref, ça ramène à ça. Donc l'idée que ce serait un fauteuil où il y aurait eu des gens qui se seraient... qui seraient morts juste avant d'être reçus, etc., mais ça existe pour tous les fauteuils. Et par exemple... Fauteuil maudit, bon, je terminerai là-dessus parce que j'ai développé ça pendant au moins 20 minutes. pour assommer cette légende, c'est le fauteuil sur lequel il y a eu les deux académiciens qui sont restés le plus longtemps. Il y en a un qui est resté 67 ans, hein, maréchal de Richelieu. Supposé inventeur de la mayonnaise, enfin plein de choses, un personnage passionnant, libertin, gastronome, romanesque. D'ailleurs, ma consoeur Chantal Thomas a consacré plusieurs pages, très belles pages au maréchal de Richelieu. Bref, donc j'ai passé une partie effectivement de mon temps de discours à démonter cette légende. Et puis de parler de François Veillergans, une beaucoup plus longue période, parce que François Veillergans, lui aussi, il est romanesque. C'est un académicien qui ne ressemblait pas à la plupart de ses collègues, mais il a quand même été élu hein, par l'Académie. C'est-à-dire que c'était un personnage, disons, excentrique. Ça s'est vu le jour de sa réception. Il est arrivé avec 14 minutes de retard. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était réception au millimètre. Il y a les tambours, les gardes républicains, tout le monde est en habit. Et il n'arrivait toujours pas. D'ailleurs, quand je dis 14 minutes, c'est pire que ça. Il avait déjà du retard. Et au bout d'un certain temps, Madame le secrétaire perpétuel, c'est ainsi qu'on l'appelle, enfin, ça demande, Hélène Carrère-Dancos, a dit à Éric Orsenna, qui était déjà à cette époque-là celui qui devait répondre, eh bien, allez-y, il n'est pas arrivé, ben, allez-y. Donc, on se trouve dans cette situation, le pauvre Éric Orsenna a commencé son discours en répondant à un discours que personne n'avait entendu, puisque Veillergans n'arrivait toujours pas. Et il est arrivé au bout de 14 minutes. Donc, dans mon discours, je n'ai cité son nom qu'au bout de 14 minutes. Ah oui, par principe. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais disons que c'est quelqu'un qui a été clivant dans la société comme à l'Académie. Donc, assez attendrissant. Pour moi, c'était un excellent écrivain. Bon, c'est ça qui compte. J'ai parlé de ses romans, mais j'ai indiqué au passage qu'il était le meilleur ami d'un grand animateur de télévision de l'époque. Alors, les plus jeunes dans cette salle ne savent même plus qui c'était, il s'appelait Jean-Luc Delarue, mais les moins jeunes se rappellent. Eh ben Jean-Luc Delarue invitait Veillergans dans ses émissions de télé prime time. Hein. Donc c'est assez étonnant. Je ne peux même pas entrer dans plein de détails compromettants. Donc voilà, c'est un personnage quand même assez atypique, donc intéressant pour son successeur. Et puis du coup, moi j'ai rendu hommage à mon prédécesseur, mais j'ai rendu hommage à Éric Orsenna, qui pendant 14 minutes parlait dans le vide. Et je disais, grosso modo, Éric est là depuis ce temps-là. Il attendait que quelqu'un se mette à la place du vide.
Alors, il faut le rappeler, l'Académie française, elle célèbre la beauté de la langue française, notamment à travers l'élaboration du dictionnaire qui s'étire dans le temps. Vous évoquiez le temps et justement, il y a ce temps de construire ce dictionnaire. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce travail et qu'est-ce que vous aimeriez apporter? Est-ce qu'il y a un mot, un terme, quelque chose déjà que vous aimeriez ajouter comme touche personnelle?
Ça, c'est une question qu'on ne m'a encore jamais posée, donc je vous remercie de me la poser, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. En tous les cas, en ce qui concerne le dictionnaire, je voudrais rappeler que c'est la partie émergée de l'iceberg, dans la mesure où c'est très important, je vais y revenir, mais l'Académie française, par ailleurs, distribue des prix, des bourses. Rien que dans le domaine littéraire, c'est au moins une cinquantaine de prix de toute forme. Et nous venons, la semaine dernière, de décerner, comme chaque année, le Grand Prix du roman de l'Académie française. On décerne ce prix un peu avant le Goncourt. Hein. Et donc, vous savez peut-être, c'est le roman qui s'appelle Le Mage du Kremlin, qui a été couronné par notre Académie. Et je trouve que c'est un excellent choix, entre autres pour un historien, parce que c'est un roman qui est contre l'histoire. Quoi. Donc, des prix, le dictionnaire, des fondations qui sont, comme on dit, techniquement abrité par l'Académie et au-delà par l'Institut, parce que vous avez 5 académies associées, mais par ailleurs, il y a des éléments autonomes. Donc, au total, quand on veut effectivement s'impliquer dans la vie de l'Académie, c'est assez prenant. Le dictionnaire, c'est la clé de voûte. Et puis, je pourrais répondre à la question de la lenteur. Bon, on peut dire que c'est un peu lent, bien entendu. Comme il y a une sorte de bizutage qui consiste à dire au nouvel élu de commenter sans le prévenir un mot du dictionnaire. Donc j'étais pas, enfin je savais qu'on allait me le demander, mais je savais pas quel était le mot. Puisque nous en sommes, j'allais dire ils en étaient, mais maintenant nous en sommes à la lettre V. Donc je me suis retrouvé, je savais pas quel est le mot. Hein. Je savais qu'on avait proposé volupté à Chantal Thomas qui m'a prédécessé. Donc je savais que ça serait après vol et c'était vote. vote. D'ailleurs, je me suis permis un petit commentaire. Dans les exemples de l'Académie, vous savez, il y a des exemples dans les articles dictionnaires. Il y avait un exemple en Italie qui disait « Les votes socialistes sont à hauteur de 15%. » J'ai dit « Ça, ça ne peut pas être un texte de 2022. C'est un texte certainement antérieur, parce que personne ne pourrait prendre ça comme exemple aujourd'hui. » Bon, passons. Donc, le dictionnaire, c'est important. Et pourquoi est-ce qu'il prend son temps? Vous avez peut-être réfléchi à ça. C'est que les dictionnaires concurrents, de grande qualité, le Robert, le Larousse, etc., sont des sociétés, sont des créations de sociétés commerciales qui ont donc des nécessités qu'on peut comprendre de très rapidement répondre à la demande d'un marché. L'Académie française n'a aucune préoccupation commerciale. Donc le fonctionnement d'une société libre, même je dirais libérale, enfin libre de participants égaux entre eux, fait qu'on prend son temps. Alors un peu épiloguer sur le temps qu'il faut pour prendre son temps. Mais c'est très cohérent. Et évidemment, on ne peut pas comparer le sens profond de ce dictionnaire, qui est quand même de bonne qualité, avec les logiques commerciales, qui d'ailleurs aujourd'hui, comme vous savez, sont très menacées. Parce que l'avenir de Larousse et de Robert, hein, face à Internet. Bon, voilà, et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Et une chose, mon premier occupant du fauteuil 32 s'appelait Vaugelas. Donc, pour ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui ont une culture du théâtre, bon, Vaugelas est cité au théâtre au XVIIe siècle. Mais Vaugelas, c'est un grammairien qui a lancé une formule très moderne en disant « Nous allons être le dictionnaire de l'usage ». C'est-à-dire, grosso modo, le dictionnaire de ce qui se dit, alors, dans... comme on disait à l'époque, la meilleure part de la société, donc à la cour. Mais ça voulait dire, nous ne faisons pas un dictionnaire d'érudits, nous faisons un dictionnaire pour ceux qui veulent parler une langue française châtiée. Pas du tout érudit. C'est-à-dire que ceux qu'ils avaient dans le collimateur, c'était la Sorbonne. Les érudits. Et ça, c'est important. Et puis, dernier point, Vaugelas a dit, nous serons le dictionnaire de l'usage contre, je cite, les caprices des particuliers. Ça, je trouve que c'est une formule très moderne. Les caprices des particuliers, non, on peut essayer de définir une sorte de juste milieu. Entre guillemets.
Et donc, vous n'avez pas encore d'idée de ce que vous aimeriez y apporter?
Non, pour l'instant, je ne pense pas que j'introduirais éco-terrorisme, mais bon, il y a comme ça des mots... Non, en revanche, alors, c'est bien que vous me tendiez à la perche, c'est vrai que je suis assez préoccupé par le franglais, et justement d'une perspective qui essaye de ne pas être nationaliste, mais... De toute façon, je ne vois pas pourquoi on admettrait le franglais en ouvrant les bras, alors que par ailleurs, on est sans arrêt préoccupé de l'autonomie nationale, ici et là. Non, il faut quand même être assez logique. Au moment de la pandémie, tout le monde a dit cluster. Et je sais bien pourquoi on a dit cluster, c'est que tout médecin qui participe à un congrès, évidemment participe à un congrès en anglais, il a cluster. Mais en français, vous aviez foyer d'infection, etc. Et c'est toujours un peu comme ça. C'est comme pour Click and Collect. Moi, je fais beaucoup de podcasts en ce moment. Je me suis dit, quand même, on pourrait peut-être trouver. Et j'ai une hypothèse pour trouver un mot très simple. Parce que quand vous regardez l'étymologie de podcast, avec Apple, c'est en fait l'idée de capsule. Ben, on peut dire capsule radio ou radio capsule. Enfin, bon, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de dire podcast. Moi, je passe mon temps à faire des podcasts.
Suspense. Alors, Eric Orsena estime aussi que sous la bivère que vous évoquiez, vous révélez une âme rebelle. Quelle est cette âme rebelle que vous avez en vous?
Ça, c'est Eric qui le dit, mais il me connaît depuis longtemps, ça, c'est vrai. Rebelle, je ne sais pas. Je pense que... Non, je sais que j'aime bien la contradiction. Donc, à partir du moment où une tendance est un peu dominante, j'aurais tendance, c'est le cas de dire, bon, on peut peut-être voir l'autre côté des choses. Voilà. Ce serait plutôt dialectique. J'aime bien la dialectique, en pensant qu'elle permet de faire avancer. Il y a des dialectiques complètement fermées sur elles-mêmes, bien sûr. Donc, alors, ce serait assez grotesque de s'auto-qualifier de rebelle. Franchement, à la limite, c'est ridicule. Si les autres veulent le dire, moi, ça me dérange. Je ne serais pas choqué. Mais vraisemblablement, c'est peut-être pas ça qui me résume le mieux. Mais comme Eric me connaît bien, donc il a peut-être raison, c'est pas à moi de le dire, c'est aux autres de le dire.
Vous avez évoqué l'épée, mais effectivement, cet uniforme que vous avez déjà vu et où chacun peut choisir là aussi sa touche personnelle, c'est vraiment magnifique. Vous parliez des artisans, c'est fait à la main, c'est vraiment très très beau. Qu'est-ce que vous avez ressenti en revêtant cet uniforme et en rentrant dans ce lieu aussi mythique ce jour J.
De combien de minutes dispose-t-on ? Parce que il faudrait que je raconte deux histoires, mais...
Alors, 8-10.
Bon, on va essayer d'en utiliser 3. Il y a une assez belle histoire pour mon habit. On dit plutôt habit que costume. Enfin, ça peut se discuter, justement, dans le dictionnaire. Il y a une plus belle histoire encore pour mon épée. Hein. Bon, pour l'habit, il se trouve que ces habits sont superbes, c'est vrai, et très chers. Hein, on m'a dit, mes confrères, Pierre Nora, qui m'a remis l'épée, etc., m'a dit, bon, ben, je vous préviens, en dessous de 20 000 euros. Hein. Ah bon, d'accord. Je me préparais à prendre rendez-vous avec mon banquier. Hein. Et puis en fait, il se révèle qu'il y a des transmissions d'habits. Et ça, c'est très beau. C'est très beau parce que l'histoire de l'épée, c'est une superbe histoire de transmission. Des transmissions d'habits. Et moi, j'ai reçu, au bout de quelques jours, les félicitations de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, un médecin à la retraite en Corse, actuellement, qui me disait, écoutez, j'aime beaucoup ce que vous faites. Bon, d'accord. Ensuite, ça c'est la dimension sentimentale, essentielle, l'émotionnel. Nos deux filles ont fait du théâtre ensemble, effectivement. Une de mes filles, Bérénice, et une de ses filles, Élodie, ont fait du théâtre en amatrice, mais de haut niveau, au Palais de Chaillot. Ah, ça c'était certainement décisif pour lui. Et donc je vous offre l'habit de mon père, grand hématologue Jacques Ruffier, qui n'est pas simplement hématologue, membre de l'Académie des sciences, parce que c'est le même habit. Hein. Ah ben, je me suis confondu en remerciements. J'ai rencontré plusieurs mois plus tard, quand je passais par la Corse, le docteur Ruffier. In petto, je me disais quelle était la carrure du docteur Ruffier, du professeur Ruffier. Bon, ça allait. Et quand vous revêtez, même quand vous regardez, j'en ai fait le test auprès de la famille, etc., mais les gens disent, on ne sait pas si ça vaut 20 000 euros, mais c'est incroyable. C'est effectivement un type d'habit qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Bon, ça c'est l'histoire de l'épée, c'est une histoire de transmission très très belle. Je suis élu un jeudi, parce que le jeudi, c'est le jour de l'Académie française. Le vendredi matin, sans aucun rapport, j'avais rendez-vous avec mon épouse chez un petit joaillier du Marais qu'on ne connaissait pas, Thierry Vendôme, mais dont on aimait ce qu'il présentait. Et je me suis laissé convaincre par mon épouse de lui offrir bientôt une bague de transmission pour une de nos filles, pour Bérénice, puisque l'autre fille avait déjà une bague ancienne de transmission. Donc elle aura, Bérénice, un jour, une bague contemporaine. Donc on rencontre ce Thierry Vendôme, parfait, on fait affaire, ça n'a rien à voir avec mon épée. L'après-midi, je continue à recevoir des messages de félicitations et une amie conservatrice de musée me dit « Ah, mais tu sais, les habits, ça se transmet. » Ben oui, j'ai vérifié. Quant à l'épée, alors ça c'est dommage, il y a quelques années, vient de mourir un génie de l'épée qui s'appelait Jean Vendôme et qui en a fait 9 pour les académies. C'était le père de celui qu'on avait vu le matin. Donc on s'est retourné vers lui, on lui a dit « On vient d'apprendre qui était votre père, vous ne voudriez pas ?» Transmission, faire comme votre père, c'est tout juste si Thierry n'a pas éclaté en sanglots. Donc c'est une très belle histoire. Et j'avoue un dernier point, puisque je parlais du dictionnaire des étrangers qu'on fait la France. Cette famille qui s'appelle Vendôme, le père est un génie. Hein. Il y a eu 2 bouquins qui lui ont consacré, l'année dernière une exposition, Jean Vendôme et Thierry. Ben, c'est pas une famille qui s'appelle Vendôme au départ. Il s'appelle Toudarian, c'est une famille arménienne qui a fui le génocide, qui s'est retrouvée en France. Et Jean Toudarian, en hommage à la France, a pris le nom de la place Vendôme. Pas mal comme transmission.
Et la transmission est au cœur de tout votre travail, de toute votre vie. Une dernière question, en devenant immortel, est-ce que vous avez une nouvelle vision sur la vie et la mort ?
Alors je rappelle que les plaisanteries sur les immortels sont visiblement anciennes, elles remontent même sans doute au XVIIe siècle. Mais l'immortalité dont il est question dans nos textes, et en particulier dans une devise, c'est l'immortalité de la langue française, et pas des membres de l'Académie. Bon, mais les membres de l'Académie sont les premiers à faire des plaisanteries. Il y en a une que j'ai rappelée, mais qui est un classique, Jean Cocteau, dont on oublie aussi, comme pour Simone Veil, qu'il était membre de l'Académie française, comme Claude Lévi-Strauss. Enfin, parmi les historiens, Georges Duby est membre de l'Académie française. Enfin, quand on fait la liste, c'est pas mal. Donc, Cocteau a dit un jour... Un académicien, c'est un immortel qui, en mourant, se transforme en fauteuil vacant. Voilà. C'est ce qui est très Cocteau, parce qu'on voit très bien la transformation en fauteuil. Voilà. Donc, immortel, non, mais on essaye de faire en sorte que la langue française résiste. Voilà. Elle va résister, entre autres, grâce à la francophonie. Et comme vous le savez, l'avenir de la langue française est en Afrique subsaharienne. Hein. c'est ça l'avenir de la langue française. Et moi, je siège juste à côté de Dany Laferrière, qui est un Haïtien, grandi à Montréal, maintenant vivant à Paris, donc un excellent écrivain de la francophonie, et qui représente Haïti parmi nous, il faut le savoir, c'est très important.
Et alors, ça tombe bien le fauteuil, puisque vous disiez qu'il y en a qui sont restés 60 ans, donc c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup, Pascal Horry. Si vous souhaitez à votre tour lui poser des questions, prolonger ce dialogue, sachez qu'il sera en signature au salon et que vous pourrez évidemment aussi vous faire dédicacer les livres. En tout cas, merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
À l'Académie et merci à vous pour votre attention.